Croison, bonjour.
Bonjour.
Alors évidemment, les gens vous connaissent bien maintenant, sportif de haut niveau, monsieur, Paris-Dakar entre autres, on traverse les mers, les océans à la nage, on n'a peur de rien, on n'a pas de bras, on n'a pas de jambes et on le fait quand même. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, Philippe Croison? Je ne vais pas revenir sur cet accident électrique qui a été la cause de l'homme que j'ai face à moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été par contre, dans votre parcours de vie, le déclic pour renaître?
Vous savez, c'est une question qu'on me pose très souvent. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, des parents pour leurs enfants, le tonton, la tata, la maman, aidez-moi. Je dis que j'ai pas de phrase miracle, il n'y a pas de phrase miracle. Moi, la phrase qui m'a ramené à la vie, c'est un oncle de mon ex-femme. Je suis derrière la vitre stérile, à l'hôpital, on vient de m'amputer des quatre membres. Et je viens de me réveiller et il a cette phrase extraordinaire. Il me dit, voilà, il y a Jérémy qui t'attend, mon grand garçon, qui avait 7 ans à l'époque. Et il me dit, il y a Grégory qui vient de naître, parce que mon petit bébé est né 2 mois après l'accident, quand je me suis réveillé, 2 mois après. On est arrivé au monde en même temps tous les deux. Et là, il me dit, tu crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes deux garçons? Et pour moi, c'était un coup de jeu, mais virtuel cette fois-ci, qui m'a ramené à la vie. J'ai dit oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre. J'ai décidé de me battre.
Et pourtant, c'est pas si simple, puisqu'après, il va falloir sortir de l'hôpital, vous reconstruire. Il y a quand même eu des passages très compliqués. Je sais que Philippe, et c'est normal, et pas de jugement, vous avez quand même aussi traversé, non pas que la Manche, mais de grandes années de dépression.
Complètement. Vous savez, quand vous rentrez dans l'univers du handicap ou qu'il vous arrive une tuile, hein, n'importe laquelle, hein, ça peut être une peine de cœur, vous avez 5 phases à franchir, 5 phases obligatoires. La première, je crois que je viens de l'expliquer tout à l'heure, c'est un peu la négation. On refuse ce qui nous arrive, on refuse la sanction. Vous savez, avec les fameux pourquoi, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi, il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont juste là pour vous harceler, pour vous piquer, pour essayer de vous ramener à la vie. Après, vous avez la phase de négociation. Une fois que tout le monde est parti, le personnel soignant, la famille, vous êtes tout seul dans votre chambre, vous négociez entre vous et vous. Il y a une partie de votre cerveau qui dit « laisse tomber, c'est foutu, tu ne feras plus jamais rien de ta vie ». Et l'autre partie qui dit « attends, peut-être que ». Voilà, c'est vous qui négociez tout seul. Après, vous avez la phase de dépression, la phase de colère et la phase de retour à la vie, l'acceptation. Moi, ces 5 phases, j'ai réussi à les franchir grâce à ma famille et mes amis. Et surtout, les 5 phases que je viens de vous expliquer, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Une phase peut durer un jour, une semaine, un mois ou toute la vie. Moi, par exemple, ma phase de colère arrivait seulement 7 ans après mon accident.
Comment elle s'est matérialisée, cette phase de colère, 7 ans après?
Mais faut comprendre aussi une erreur de mon père. Enfin, il ne l'a pas fait exprès. C'est pour ça que cette phase de colère est arrivée 7 ans après. Mon père, il avait dit à ma famille et mes amis, ceux qui ont le droit d'aller voir Philippe, derrière la vitre stérile, je veux que personne ne pleure devant lui. Je veux qu'on lui montre une famille forte, des amis soudés. S'il y en a un qui pleure devant lui, je vous préviens, ce sera entre lui et moi après. Alors imaginez, derrière ma vitre stérile, sur mon lit, je les voyais tous passer les uns après les autres. Les plus courageux tenaient environ 1 minute, et d'un coup, ils avaient tous soif ou envie d'un café ou d'une cigarette. Ils allaient vite partir plus loin pour pleurer. Et moi, je voyais personne pleurer. J'étais là, mais bah, tout le monde s'en fout, quoi. Personne ne pleure. Et là, je me suis dit, mais ça veut dire que moi aussi, il faut que je les protège. Ça veut dire que moi aussi, il faut pas que je leur montre ma douleur. Et on s'est tous protégés les uns les autres pendant 7 ans. C'est pour ça que ma phase de colère est arrivée seulement 7 ans après. Quand mon épouse est partie, elle a craqué 7 ans. Parce que j'étais, pendant 7 ans, j'étais d'une phase, excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais c'était ma phase gros con, c'était ma phase au tout médu, j'ai eu une phase de dépression de 7 ans. Et au bout de 7 ans, elle est partie, et je suis rentré dans une phase de colère terrible, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'entendais mon père qui criait dans le couloir, et ma mère qui pleurait, j'étais vers eux, je dis, mais pourquoi tu pleures? Et papa a foncé sur moi, il m'a dit, nous aussi on a eu mal, nous aussi on a pleuré, t'as pas le droit de nous faire ça, t'entends? T'as pas le droit de nous faire ça. Et là, moi, je me suis reconstruit avec des psys pendant 1 an. Mon père, ma mère, mon frère, mon épouse, mes enfants, tout le monde a eu besoin d'un psy pendant 7 ans plus tard. Parce qu'on a gardé ce bon Dieu de secret en nous. On n'a pas sorti la haine de cet accident. Et donc, voilà, c'est le message le plus important que j'avais envie de passer aujourd'hui, peut-être avec vous, c'est de dire qu'il faut parler. Il faut communiquer à une amie, à une infirmière, quelqu'un. Mais il faut dire sa rage, il faut dire sa colère quand on a eu un accident ou quand on a eu une peine de cœur. Il faut parler. C'est la chose la plus importante.
Philippe Croison, il y a plein de déclics dans votre parcours de vie qui expliquent comment l'homme que vous êtes aujourd'hui a pu aussi réaliser des défis mais incroyables. Genre, le premier défi, c'est traverser une mer à la nage, sans bras, sans pieds, sans jambes. Et vous lâchez pas, vous devenez un warrior dans la tête. Et il y a une autre rencontre qui va vous y aider, évidemment.
Complètement, c'est Susanna. Donc, Susanna qui vient de sortir son livre il y a quelques temps, « Ma vie pour deux ». Aux éditions Artaud, mais sans Susanna, j'aurais pas traversé la Manche à la nage. Sans Susanna, j'aurais pas relié 5 continents à la nage. Sans Susanna, j'aurais pas été pilote sur le Dakar. C'était vraiment une rencontre extraordinaire. J'ai peut-être eu la chance que cette femme ait été remplie de, je sais pas comment dire, d'abnégation, de dépassement de soi. Parce que dans mon livre, Plus fort la vie, il y a mon dépassement de soi, il y a surtout le dépassement de soi de Susanna et surtout le don de soi. Elle m'a offert sa vie pendant 5 ans pour que je puisse réaliser mes rêves. Et ça a été d'une violence sans nom. Moi, j'imaginais pas qu'elle avait autant souffert dans mes défis. C'est grâce à son livre que j'ai pu le découvrir. Mais Susanna m'a donné des ailes. Ouais. Il n'y a pas que les boissons énergétiques qui donnent des ailes. Il y a surtout l'amour. Et l'amour m'a vraiment porté et m'a emmené dans des endroits. Et vous savez, quand on était dans la difficulté tous les deux, parce qu'elle m'a donné les ailes, mais très souvent on craquait, parce que c'était vraiment dur toutes ces années d'entraînement. Et je regardais Susanna, on pleurait les bras l'un dans l'autre, et je lui disais, mais si on va au bout, si on traverse la Manche, on va changer notre vie. On ne vivra pas sous le seuil de pauvreté. Moi, je ne veux pas vivre sous le seuil de pauvreté. Je ne veux pas être dépendant de la société. Je veux vivre du fruit de mon travail. Et donc, on a été au bout. Et aujourd'hui, on est heureux de notre nouvelle existence.
Est-ce que vous pouvez me rappeler, Philippe Croizon, le déclic sur le premier défi sportif de vous mettre à traverser la mer?
Ah, ça, c'est arrivé sur mon lit d'hôpital. Je me réveille, je suis amputé des quatre membres et je décide de vivre pour mes deux garçons, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et je demande à une infirmière d'allumer la télévision. Et je regarde France 3, je regarde Thalassa, un vendredi soir, et je vois une jeune fille qui traverse la Manche à la nage. Et je suis carrément capté par les images. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai juste oublié comment venaient mes bras et mes jambes. Je suis tellement capté par les images, je fais waouh, pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je traverserais pas la Manche à la nage? Et c'est tout le temps resté dans ma tête pendant ces 10 ans. J'en parlais à ma famille et mes amis, mais personne ne voulait me croire. Qui pouvait imaginer que j'allais traverser la Manche à la nage? Et je rencontre Susanna et je lui explique mon vieux rêve qui était enfoui au fond de mon cerveau. Et par amour et par ignorance comme moi, parce qu'on connaissait absolument rien au sport, on est rentré dans l'aventure et on avance au jour le jour, on ne réfléchit plus.
Dans le livre de Susanna Sabino que vous avez un peu coécrit, puisque vous avez répondu à ce que disait Susanna dans ce livre « Ma vie pour deux », vous expliquez, enfin en tout cas elle explique, Susanna, que vous êtes en Papouasie, Nouvelle-Guinée, et que d'abord c'était très particulier, l'arrivée dans ce pays, sale, on ne peut pas se baigner, tout est crade, etc., puis c'est un peu dangereux.
Ouais, c'était assez incroyable, franchement c'était dans le petit village de Vanimo, je m'en souviens toute ma vie, mais c'était incroyable, parce que les Papous sont une pauvreté sans nom, ils sont gérés par les Australiens, ils leur piquent tout, ils leur laissent rien. Et là, il y a un papou qui vient, effectivement, qui pose une pièce sur ma jambe. Je dis, il a pris un coup de soleil ou quoi? Et un autre, et un autre. Et tous les gens du village se mettent à la queue leu-leu pour me donner leur argent. Mais vraiment, tout leur argent. Ils achetaient plus rien sur le marché. Je dis, mais arrêtez. Et là, il y a une mamie. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Et elle me dit, bah, t'es handicapé, il faut t'aider. J'étais avec toute mon équipe de petits blancs, là, au fin fond du monde, là-bas, chez les papous. Et pour eux, vu que j'étais handicapé, il fallait m'aider. Il n'y avait pas à réfléchir plus loin que ça. Et je me suis dit, mais j'ai pris une claque phénoménale. Je me suis dit, mais ils ont rien. Et ils ont tout. Ils ont gardé l'essentiel. Et nous, on vit dans un pays civilisé, soi-disant civilisé, où on a tout. Et on a simplement oublié, quoi. On a simplement oublié la chance dans quel pays on vit, quoi. Franchement, on a tout. On a tout pour être heureux. Alors effectivement, quand je suis rentré en France, j'ai vite été au marché. Bah, c'est pas pareil.
Personne qui a mis des pièces sur... Philippe Croizon, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps pour ce parcours de vie sur Sud Radio. Et puis, bah, prochain défi, alors, c'est quoi?
Prochain défi, bah, je donne beaucoup, beaucoup de conférences. Je fais à peu près 150 conférences par an. Donc, c'est vraiment mon métier à plein temps aujourd'hui. Et il y a quelques temps, j'ai fait une conférence à Bercy. Il y avait 10 000 personnes. Et il y avait des producteurs. Et ils m'ont dit, il faut que tu montes sur scène. Et là, je suis en écriture avec Jérémy Ferrari pour mon premier one-man show. Donc, c'est un défi. C'est un nouveau défi de monter sur les planches, de faire rire et de faire pleurer et de vivre un moment fort avec les gens. Donc ce sera pour le printemps 2020, affaire à suivre.
Merci beaucoup Philippe Croizon.
Merci à vous.